I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 89 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, récap de UFC 288. Week-end chargé, évidemment. Vendredi soir, c'était One. Samedi soir, c'était le UFC 288. Avec une carte pas mal, je dirais, à la base. Sauvé par un co-main event qui s'est un peu incrusté de nulle part entre Burns et Bilal. Mais au final, quand même, carte qui, pour ce que j'ai regardé du moins, a livré quelques combats sympas. Rien d'exceptionnel non plus, mais quand même, on a appris pas mal de choses. On a appris pas mal de choses sur des combats importants, sur des combattants importants qui ont leur place là-haut dans les classements. Et ça peut donner de belles choses pour la suite. Ça commence directement dans les préliminaires. Je vais sauter directement au combat de Matt Frevola face à Drew Dober. Super banger sur le papier. Clairement un combat qui avait sa place, j'estime, sur la main card. Mais combat qui a été la clôture des prélims. Alors évidemment, entre les deux, on n'a pas perdu de temps. Ça a vraiment été vite au niveau du striking. Tout s'est passé dans le premier round. Chez les lightweights, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, j'ai envie de vous dire. Et notamment chez Matt Frevola et chez Drew Dober, c'est quelque chose qui peut arriver souvent aussi. Hein. Je vous rappelle que Matt Frevola a gagné son combat en janvier 2022 contre Valdez au premier round, a gagné contre Otman Azaitar à New York en novembre au premier round, et rebelote, premier round face à Drew Dober au New Jersey. Alors Matt Frevola qui était bien en début de round avec de bonnes attaques en ligne. Il connectait beaucoup de Drew Dober qui je trouve avait un peu de mal avec son head movement et ses placements, qui faisait beaucoup manger les coups de Matt Frevola. Et au bout d'environ une minute, on pouvait attendre, comme à son habitude, un combat qui se finisse dans le premier round, côté Matt Frevola, mais aussi côté Drew Dober, hein, qui a battu par exemple Terence McKinney en un round. On voyait que ça allait très vite. Puis Steam Roller aussi avait des beaux kicks qui allaient bien au corps de Drew Dober. Drew Dober a dû passer sur un autre gameplay à un moment donné parce que clairement il se faisait build up, et puis comme je vous le disais, ça sentait que ça aurait pu arriver très très vite au niveau de la fin. Il a dû pousser contre la grille et commencer à travailler le corps de Frevola pour le calmer un petit peu sur ses assauts. Et ça a bien marché parce que Frevola, on l'a vu un peu faire quelques grimaces, un langage corporel assez négatif de la part de Steamroller. Malgré tout, Dober a continué à pousser sur des coups au corps. Mais Drew Dober s'est aussi un peu avancé droit et puis pas forcément protégé sa tête. Une garde un peu, on va dire, un peu moyenne, hein, un peu poreuse. Et sur un coup au corps où il s'est rapproché un peu trop dans la pocket, au final c'est Matt Frevola qui a eu le dernier coup avec cette droite limite crochet droit qui arrivait sur le menton de Drew Dober. Et derrière surtout le grand end pound des enfers qui a été suivi directement par Matt Frevola. Vraiment il a tout lâché sur Drew Dober qui a pu se défendre tant bien que mal sur les premiers assauts, mais une fois qu'une droite était passée entre les mains, c'était chaud et là il a fallu que l'arbitre arrête vite. Drew Dober était pas content que l'arbitre arrête trop vite, mais pendant qu'il s'est relevé et qu'il avait les mains écartées à dire genre non mais quoi, pourquoi t'arrêtes, il était en train de tituber, il était plus là quoi déjà. Enfin il était plus là, il était à moitié là on va dire, mais il était en situation de danger et c'était le moment d'arrêter le combat. Frevola a du feu dans ses mains. La façon dont il a tué son dernier adversaire, Otman Azaitar, en 2 minutes 30 au premier round, KO punch. Et là, Drew Dober, TKO punch. Ça fait 3 victoires au premier round de suite pour Matt Frevola. On le sait, hein, chez les lightweights, c'est chaud. C'est chaud tendu. Sa dernière défaite, ça remonte à Terence McKinney en 7 secondes. C'était dur, certes. Celle d'avant, c'était contre Arman Tsarukyan. Donc, je veux dire, il a battu aussi Jalin Turner, Luis Peña. Beau petit pédigré quand même pour Matt Frevola. Franchement, il est cool en plus comme fighter. Chez les lightweight, ça lui va très bien. Il va rentrer dans le classement, je pense, après avoir battu Drew Dober. Il devrait rentrer 15 ou 14. C'est cool pour lui, 32 ans, il y a encore quelques belles années, je pense qu'il peut être compétitif au sein de la au sein de la KT Lightweight. Belle KT, clairement une belle KT, et puis le feu, à chaque fois avec Matt Frevola, pardon, on ne s'ennuie pas, beau petit combat pour terminer les prélims. Et le combat suivant, évidemment, qu'on attendait beaucoup, Ron Gracie face à Charles Jourdain. Jourdain qui était de retour après une défaite vraiment difficile face à Nathaniel Wood, qu'il avait remporté sur une grosse base de lutte. Et Charles Jourdain qui avait montré pas mal de faiblesses justement sur cette lutte, hein, il n'avait pas réussi à s'en extirper. Et là, face à Ron Gracie, ben, il y avait le danger du gars qui ne veut pas se battre. Alors qu'est-ce que c'est le danger du gars qui veut pas se battre? Ça peut paraître genre bête, mais un gars qui veut pas se battre, s'il vous prend dans votre game plan et qui remporte le combat à la décision en bloquant le combat, il n'y a rien de plus frustrant, surtout pour un striker contre comme Charles Jourdain. Mais Charles Jourdain a été très très discipliné, a stické son game plan, ne s'est pas paniqué, a été patient. Bref, il a montré beaucoup de professionnalisme et beaucoup de maturité dans la cage, et ça, on a adoré. C'est clair que dans la boxe anglaise, il était clairement au-dessus de Ron Gracie, hein, qui avait des appuis vraiment complètement pourris, des déplacements dégueulasses. S'il y avait des placements, hein, pas de head movement, rien. Charles Jourdain rentrait dans la poche, enchaînait des petites combinaisons 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 limite. Uppercut, crochet, jab, coup au corps, remonter, changer de niveau, sortir du bon côté. Enfin bref, c'était vraiment classique de la part de Jourdain, mais classique très bien fait. Certes, Kron était un peu en mode punching bag en face, mais encore une fois, Jourdain, c'est pas vraiment pas frustré. Bon, Kron, son seul game plan, c'était d'aller chercher le clinch, de jumper le garde et de se mettre sur son dos et d'essayer de faire quelque chose sur son dos. Il l'a fait genre à chaque round. Les premiers rounds, Jourdain a resté bloqué plusieurs minutes dans sa garde. Malgré tout, Kron Gracie n'a rien pu faire. Hein. Peut-être quelques tentatives d'essayer de passer un triangle, mais vraiment, vraiment timide. Pas vraiment de tentative de armbar. Je veux dire, il n'y avait pas de créativité sur le dos de la part de Kron Gracie. Alors pour un Gracie, c'est quand même vraiment bizarre de pas vouloir aller chercher de la créativité sur son dos, quoi. Genre, on pouvait pas s'y attendre. Le gars, j'irai pas dire jusqu'ici, bah, ça a été dit sur Twitter, je vais le répéter sans forcément le penser, mais c'est qu'il fait un peu honte quand même en tant qu'héritage sur son nom, Gracier. Mais j'ai pas envie d'aller jusque-là, hein. T'as pas la responsabilité de ton nom en tant que fighter, ça va trop loin. Par contre, carton jaune direct, hein, pour Gracier, pour sa non-activité et sa non-créativité, son manque d'envie, et le fait qu'il jump guard plusieurs fois. Tu sais, on pouvait croire que Paul Craig avait fait le pire en jump en garde et en pull en garde, genre 5-6 fois dans chaque round, mais Ron Gracier s'en rapproche pas loin. Et comme je vous le dis, hein, le premier round, ça a été un peu frustrant pour Jourdain, mais malgré tout, il s'en est sorti dans la garde de Gracie. Hein. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est repousser en dessous des aisselles, pousser les bras, passer un petit coup de ground and pound de temps en temps, ne pas se frustrer, rattraper sa posture, remettre son dos droit le moment où Grand Gracie récupérait trop la tête de Charles. Enfin voilà, ça a été facile au final pour Charles Jourdain. Ça a été comme un rôle du dimanche matin, quoi. Et plus on avançait dans le round, plus dans le combat, plus Gracie était fatigué. Plus Gracie essayait de jump et garde, et plus Charles Jourdain s'en sortait et n'allait pas au sol avec Gracie. Ça a été facile, plus ou moins pour Jourdain. Ça paraissait facile parce que, encore une fois, on peut vite se frustrer, on peut vite se retrouver dans une situation de merde face à un black belt de Jiu-Jitsu. Il faut faire très très attention. Et Charles Jourdain l'a fait, et puis Charles Jourdain a rempli son contrat. Lui, il a fait sa job. Il s'est excusé en plus à la fin du combat pour dire désolé, c'est pas allé dans le sens que vous voulez, mais. Comme ils disent souvent, it takes two to dance. Et là, il n'y en avait qu'un seul qui voulait danser, c'était Charles Jourdain. Et ça lui arrivait plusieurs fois, hein, Jourdain, de se retrouver dans des match-ups qui pourrissaient son game plan. Mais là, je trouve qu'il y a un beau point de la part du Québécois, c'est que il a su s'adapter dans le sens où il s'est relevé plusieurs fois quand Gracie a jumpé garde et qu'il l'avait dans sa garde sur son dos. Charles Jourdain a su se relever. Charles Jourdain a su casser le clinch dans les derniers rounds. Donc, bonne perf. Vraiment bonne perf de Jourdain. Kron Gracie, je pense pas qu'on veut le revoir de sitôt ou jamais. J'en sais rien. Il a 32 ans en plus. Hein, il n'est pas vieux, quoi. Donc, je sais pas pourquoi c'était si faible. si vide, on va dire. À revoir très vite pour Charles Jourdain. Enfin, voilà, je pense que s'il continue d'évoluer dans cette discipline, ça peut être pas mal pour le Charles Jourdain. Maintenant, il y a encore des axes à améliorer, comme on l'a vu, comme la lutte. Mais là, on l'a vu, il a su casser le clinch de Gracier assez vite. Ça, c'était bien joué pour Krohn Gracier. Sa performance, sans vouloir faire de mauvaises blagues, était très plate. Et on peut passer au plus beau combat de la soirée. Alors clairement, j'ai pas vu tous les prélims et tous les early prélims, mais de ce que j'ai vu, en tout cas à partir du combat de Frévola contre Dober, Evloev face à Diego Lopez était le meilleur combat de la soirée, et un combat qui m'a fait vraiment vibrer, et qui a fait vibrer beaucoup de tweetos aussi, je pense, beaucoup de fans. C'était génial à voir. Génial à voir et inattendu aussi, parce qu'on voulait Evloev face à Mitchell, on ne l'a pas eu, Mitchell était blessé. On était dégoûté parce que ça a mis un coup à la carte. Maintenant, Diego Lopez, un gars qui j'ai vu sur Twitter, qui avait beaucoup de praise, beaucoup de hype autour de lui. Les gens avaient une très très bonne opinion du combattant brésilien. Moi, ce que j'ai vu, c'est les stats, enfin les stats s'affichent plutôt, et j'avais vu qu'il avait perdu au Contender Series. Bon, peut-être il avait fait une belle performance au Contender Series. Ça arrive au Contender Series que bah, tu gagnes, même que tu finisses ton adversaire et que tu n'es pas forcément contraint, hein. Comme Bonical, il lui a fallu deux combats, par exemple. Maintenant, Evloev, lui, on voulait un combat vraiment référence pour lui, dans le sens où on voulait un adversaire du top 10 qui soit genre une teigne pour lui, pour pouvoir voir augmenter un peu le niveau et puis voir s'il a le calibre d'un champion. Au final, il lui a pas fallu un top 15 ou un top 20 ou un top 25 ou un top 5 ou peu importe. Il lui a fallu juste une teigne en face. Et Diego Lopez est une putain de teigne. C'est incroyable le cœur de ce mec. Alors maintenant, je veux pas dire que son MMA est parfait, etc. Loin de là. Il y a beaucoup de déplacements, coups parasites, head movement un petit peu au quad, déplacements un peu au quad dans le striking. Mais attention, quand il avance sur toi, qu'est-ce que ça frappe fort. Il commit à chaque coup. Il veut te faire mal, il veut te finir. Il est clairement rentré dans l'octogone pour pourrir la soirée et casser le record de Movsar Evloev. Et rien que pour ça, pour rentrer sur short notice comme ça, 10 jours, une semaine, et lâcher ce combat, lâcher cette attitude, fucking respect à Diego Lopez, incroyable. Après tous ces middle kicks au corps de Diego Lopez, Evloev a limite été roqué 2-3 fois, il était limite genre touché, on voyait que ça commençait à être dur les coups qu'il se prenait, puis on l'entendait, c'est le bruit que ça faisait, la puissance, et comme je vous dis, l'envie de faire mal de Diego Lopez. Movsar Evloev a dû faire du Movsar Evloev. À un moment donné, il n'a pas eu le choix de mettre son adversaire au sol, mais c'est là que le combat est devenu encore plus intéressant et vraiment surprenant, parce que comparé à Krohn Gracier par exemple au combat d'avant, le jour et la nuit, l'envie sur le dos de Diego Lopez, incroyable à quel point le Brésilien a travaillé sur son dos, tentative de soumission constante, le nombre de fois où il a réussi à passer son genou au-dessus de l'épaule de Movsar Evloev pour essayer de passer un triangle, certes c'est pas passé, mais le travail des hanches, pousser sur les hanches tout le temps, attraper le bras, bloquer un bras. Enfin, ça a été tout du long du fight. Et dans le premier round, justement, il a réussi à passer un super armbar. Je pense que l'armbar n'était pas assez profond. Le coude était à peine sorti. Bon, il a tiré comme un chien. Il a bridgé comme un porc avec ses hanches pour essayer de taper Movsar Evloev. Je pense que c'était douloureux à ce moment-là. Mais Movsar Evloev s'en est sorti. A réussi à rouler du bon côté pour aller se repasser au-dessus de Diego Lopez. C'était chaud. C'était très chaud, je pense. Après, bon, Evloev est un dur à cuire, donc c'était peut-être plus visuellement chaud que ça ne l'était dans la vérité, mais cette fin de premier round a été très chaude. Ouais, quand je revois les images en plus, quand on voit les photos de ce armbar, on voit la tête de Evloev grimacer un peu. C'était chaud et ce premier round était malade. Qu'est-ce qu'on a kiffé. Deuxième round, on change un petit peu de physionomie, hein, puisque c'est plus Evloev qui va prendre le dessus au niveau du striking, et Diego Lopez, je le trouve, c'est sûr qu'il a lâché un petit peu de gas tank dans le premier, sur les pieds, debout, je parle du moins, et c'est plus Evloev qui prend le rôle de l'agresseur au niveau du striking. C'est un peu plus compliqué côté Diego Lopez. Les déplacements sont, comme je vous l'avais dit au début, un peu plus awkward que ceux de Evloev. Mais malgré tout, ça continue de banger. Evloev arrive à le mettre au sol. Et puis là, même si, comme je vous l'ai dit encore une fois, Lopez est très très créatif et travaille énormément dans la garde et donne toutes les misères du monde à Evloev d'installer son game plan quand il est au-dessus. Evloev continue de faire du Evloev au sol. Ce qui fait super bien au niveau du ground and pound, c'est changer les niveaux. Un coup au corps, un coup dans la face, un coup au corps, un coup dans la face. Ça, c'est super beau de la part d'Evloev. C'est vraiment du MMA A plus B. Mais il le fait très bien. Et puis les coups dans la face, il les envoie plus fort que les coups au corps parce qu'il veut ramasser, il veut mettre du damage sur son adversaire. Ça, c'est l'instinct du killer et Evloev l'a toujours. C'est super beau de la part du Russe. Quand même, genre, calibre de champion dans la démonstration de MMA. Je veux quand même dire aussi que Evloev a quelques progrès à faire au niveau du striking, dans la garde notamment. Certes, ses déplacements, il y a quelques bonnes bases, mais c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est la complétude de son MMA. Et puis quand il te met au sol, il travaille comme un porc, quoi. Et puis il t'en met dans la face et il t'en met, comme je vous l'ai dit. Le ground and pound est vraiment technique et bien installé. Patience, prise de temps, mais pression constante. Par contre, ouais, la garde, quand on est en striking, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est le genre de gars qui pourrait se faire sécher, je pense. Maintenant, Lopez, comme je vous l'ai dit, a baissé un petit peu en régime et en plus, il s'est fait mettre au sol dans le deuxième. Très beau combat, pareil, hein, on kiffe à fond ce combat. Et encore une régalade au troisième round, quoi. C'est incroyable ce combat parce que Evloev a été malin dans le striking. Là, dans le troisième, il est au-dessus de Lopez encore. Il avance sur le striking et il a timé son takedown. C'était vraiment genre de la patience pour timer son takedown. 1 minute 32 minutes après un peu de striking et lever la garde de son adversaire. Boom, double leg, il le met au sol. Il travaille. Lopez se relève contre la grille, mais là, Movsar Evloev a son dos. Donc il a le body lock, il a le dos de Lopez et il envoie des béquilles et des béquilles et des béquilles et des béquilles. C'est compliqué pour Diego Lopez qui, pour répondre, attrape un Kimura grip quand on se retrouve au sol encore une fois, parce que Movsar Evloev veut l'amener au sol. Par contre, Diego Lopez travaille très fort pour aller chercher un Kimura grip au sol et passe une Kimura. Movsar Evloev est encore dans la mouise, comme au premier round, sur une tentative de soumission magnifique de Diego Lopez. Mais encore une fois, il s'en sort et là, ça devait être super douloureux parce que son bras était derrière sa tête, quoi. Mais Evloev veut pas taper. Après, est-ce qu'il en est blessé, etc. Je ne pense pas. Mais ça devait être fucking douloureux, quoi. Et le mec a rien lâché, encore une fois, l'instinct du chien dans des moments comme ça. Pour encore une fois se retourner, repasser du ground and pound derrière. Enfin voilà, c'était pas le test qu'on attendait pour Evloev. Dans le sens où c'était pas le combattant, le combattant test qu'on attendait, mais ça a été un vrai test à la fin de la journée. Quel putain de test, parce que Diego Lopez, comme je vous le dis, est une fucking teigne. Le gars est mort, et non, il n'est jamais mort, même si vous êtes au-dessus, enfin, surtout Evloev au-dessus, à vous mettre du ground and pound. C'est incroyable à quel point le Brésilien a eu la force, la créativité, les ressources pour aller chercher cette tentative de soumission qui aurait pu finir énormément de gains. Alors clairement, Evloev, ça c'est un problème pour les gars du BJJ aussi, parce que là on l'a vu contre Lopez, et ben tu peux essayer de le soumettre, tu peux le mettre dans une soumission, tu peux l'avoir dans une soumission qui serait une garantie de finition pour beaucoup de combattants, bah lui il va pas taper quoi. Et 17-0 pour Evloev. Bordel, quel combat entre les deux. J'ai hâte de revoir Diego Lopez, hein. Alors là, tout le monde, je pense, beaucoup de monde a hâte de le revoir. Ça va être fucking bon de l'avoir au UFC. J'espère qu'ils lui ont pas fait un contrat d'un seul combat, mais au moins genre 3, 4, 5, ou tout. Bref, parce que j'ai envie de le voir plus, quoi. Clairement, ça va être fucking nice de revoir Diego Lopez. Et Evloev, oh là 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 là. C'est too bad ce soit contre un combattant qui soit pas classé, parce que je pense pas que ça va l'amener très loin dans le classement, mais clairement, le mec est une bête, quoi. Et les gens qui vont commencer à le charrier, que ce soit des fans ou des fighters, à dire ouais, tu t'es battu contre un nobody, ben genre, clairement regardez le combat parce que sinon vous y connaissez absolument rien. Bravo aux deux pour cette guerre, putain que c'était bon. Et combat qui ne payait pas forcément de mine, pardon, sur cette carte. Jessica Andrade face à Ian Jiaonan. Par contre, c'est sûr que la chinoise chez les strawweight, ça m'intéresse beaucoup parce que ben, chez les strawweight, il n'y a pas énormément de concurrence et que dès qu'on a quelqu'un qui pointe un peu le bout de son nez avec un minimum d'espoir, ben, on est content de les voir. Et bon, Andrade, elle, c'est une baroudeuse, hein, je ne sais pas combien de combats elle a dans le UFC, mais bordel, c'est beau, c'est du lourd, clairement, comme carrière, et puis dans toutes les divisions en plus, hein, strawweight, flyweight, bantamweight, mais c'est clair et net que, vu sa taille, elle est mieux chez les strawweight. Par contre, la taille de Yan Xiaonan, la chinoise, face à Andrade, ça a été clairement l'élément déterminant de ce combat-là. Vraiment plus grande, la chinoise, par rapport à Jessica Andrade. Même si, bon, elle fait 1m65, mais Andrade doit faire 1m50, quelque chose comme ça, 1m55. Donc, c'est super compliqué pour elle. Et ça a été un gros problème, quoi. Andrade n'a pas su la connecter, n'a pas su la bouger. C'était vraiment awkward de la voir, genre, courir après la chinoise qui, elle, n'avait qu'à envoyer, genre, des one-shots vraiment piquants, hein, des beaux petits low kicks, enfin, assez fort quand même, ça faisait un beau bruit. Des jabs piquants dans le ventre, dans la tête, changement de level pour la chinoise et Andrade qui mangeait tout, hein. C'était compliqué pour elle et quand la chinoise reculait, Andrade accélérait vers elle avec des gros crochets, ça marchait clairement pas pour la brésilienne. Mais bon, la chinoise en a profité comme il fallait et c'est pas ce qui est le plus intéressant parce qu'au final, comme je vous dis, elle lui courait après, menton en avant. Et Yan Xiaonan a juste eu à connecter ben, un crochet du droit pleine face de Andrade. Hein. Il a fallu juste timer le counter pour pouvoir éteindre la brésilienne. Et la brésilienne s'est faite éteindre KO direct à 2 minutes 20. Ah, chaud, 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 chaud. Parce que là, ça a été dur. Je ne sais pas si ça a été de la frustration de la part de Jessica Andrade. Elle aurait pas dû peut-être forcément avancer comme un tank directement comme ça, parce que certains combats, ça lui a réussi, et d'autres, ben non. Clairement, comme celui-là, ça a été un gros problème. Dur. Après, je sais pas comment Yan Xiaonan a fait 115 livres. Je sais pas. 1m65, 115 livres, c'est chaud, mais bon, elle l'a fait. Elle était chez Flyweight avant, mais bon, là ça fait un bout qu'elle est en Strawweight. Mais regarde, elle l'est fait apparemment. Donc voilà, c'était dur à voir pour Jessica Andrade parce que vraiment l'avoir courir comme ça en faisant des moulinets, en s'en prendre une pleine mâchoire, c'est dur, dur, dur pour elle. Mais écoutez, Yan Xiaonan a fait ce qu'il fallait faire et puis. Puis ma 3 victoires de suite chez les Strawweight et je pense que bah, on s'approche doucement du title shot pour Yan Xiaonan, bravo à elle. Et super, super, super co-main event entre, sur le papier du moins, mais aussi quand même pendant le combat entre Bilal Mohammed et Gilbert Burns. Clairement, première sortie du combat sur 5 rounds, Bilal au-dessus. Bilal au-dessus parce que Bilal, très, très smart, et qu'est-ce que c'était discipliné et sticker au gameplay vraiment parfaitement pour Bilal, qui a ben, dominé Gilbert Burns clairement dans les déplacements sur le stand-up. Ça a été très compliqué pour Gilbert Burns de gérer les changements de stance de Bilal et de gérer ces maudits body kicks de la part de Bilal Mohammed qui les a timés super bien et qui a digué le côté droit de Gilbert Burns tout du long du combat. Et Gilbert Burns, qui petit à petit, au fur et à mesure du combat, avait du mal à connecter de plus en plus. Il arrivait avec des gros overhand qui essayaient de toucher Bilal. C'était vraiment, vraiment compliqué pour Gilbert Burns. Sur les deux premiers, sur les, allez, premier, deuxième, troisième round, mais comme je vous le dis, petit à petit, ça a été la qualité du combat côté Burns a décliné et la compétitivité du combat a décliné avec Bilal Mohammed qui gagnait dans un sens, quoi. Clairement, beau contrôle du centre de l'octagone pour Mohammed. Et toujours ces kicks qui poussaient petit à petit Burns contre la grille, même quand Burns essayait justement de s'échapper de la grille pour repartir vers le centre de l'octagone, c'était toujours genre avec une espèce de fuite en avant et ce gros overhand. Alors certes, Bilal doit y faire attention et reculer comme il fallait, mais il les voyait venir. Donc si tu restes discipliné par rapport à ton game plan, à comment ça se déroulait sur le premier, deuxième, etc., et puis que ton adversaire tombe de plus en plus dans ce que toi tu veux qu'il tombe, bah tu continues de faire la même chose, et ça a super bien marché pour Bilal. Et puis je pense que Bilal changeait souvent de stance aussi pour préparer ses kicks qui arrivaient côté droit sur Durino. Et puis en plus, il sortait côté droit de Durino. Enfin, c'était compliqué parce qu'il sortait bien sur le côté à chaque fois, une fois qu'il passait ses combinaisons. Donc c'était encore plus compliqué pour Durino, pour Burns, de briser l'énigme Bilal qu'il n'a pas réussi à briser, absolument pas. Puis ce qui est smart côté Bilal aussi, c'est qu'il n'est pas obligé d'envoyer de la combinaison, genre toujours genre avec full power et puis énormément d'attention. Ça lui arrivait plusieurs fois d'envoyer des jabs et des petits crochets, mais vraiment juste pour toucher, puis pour pousser Burns contre la grille et reprendre le contrôle et dicter son pace et gérer la danse au final de ce combat-là. Et Burns, ça, une fois qu'il se faisait pousser contre la grille, encore une fois, comme je vous dis, il revenait avec des gros overhands et dans le troisième, quatrième, ça devenait de plus en plus compliqué avec Burns qui est un peu cramé, quoi, et avec la garde vraiment haute parce que Bilal, encore une fois, envoyait ses gros kicks, il faut faire attention aux high kicks. C'était compliqué, il n'arrivait pas à tourner autour de son adversaire parce que Bilal était toujours en avance sur les déplacements et Burns n'arrivait absolument pas à miroiter, il était toujours derrière. Et pour ça, ben, Bilal était dans la gestion et Burns subissait. Après, Burns n'a jamais abandonné, hein. Il a toujours essayé de répondre, il a réussi à connecter Bilal deux, trois fois, mais c'est quand même Burns. On sait ce qu'il est capable de faire en striking, on sait la force qu'il a et puis on sait l'abnégation qu'il a. Mais Bilal, on le voit depuis plusieurs combats, c'est que genre, et puis on l'a vu contre Sean Brady, que quand il veut finir quelqu'un aussi, il peut et qu'il est bon dans ses déplacements, et il s'est beaucoup, beaucoup amélioré en striking. C'est un combattant complet de MMA et c'est un problème pour Burns qui se retrouve face à un gars qui sait tout faire, hein, genre 4 tentatives de takedown pour Burns, 0 qui sont passées. On sait que Bilal est très très bon en lutte aussi. Donc il est en train de se transformer un peu en combattant enfin évoluer tout au long de son évolution, pardon, en combattant moderne, parfait de MMA, Bilal. C'est vraiment, vraiment chaud de casser l'énigme. Clairement, le gars, ça fait plusieurs années, limite, qu'il mérite un title shot. Donc de le voir comme ça face à Burns, qui est, me semble-t-il, peut-être le contender numéro 1 avant ce combat-là, du moins, chez les welterweight pour aller chercher un title shot. Bilal, enfin voilà quoi, le dernière défaite remonte en 2019 face à Josh Neal, et puis c'était à la décision, quoi. Sinon, enfin voilà, il a battu Demian Maia, Stephen Thompson, Vincente Luque, Sean Brady, enfin, tu sais, il est bon. Et il a de l'expérience sur 5 rounds maintenant. Ça va être compliqué parce qu'il a une très bonne cardio aussi et encore une très bonne discipline. Et puis il a su respecter son game plan tout du long. Et puis face à un adversaire qui, comme je vous le dis, était sûrement le plus gros contender pour aller chercher un title shot. Et je ne vous parle pas au niveau de la politique ou quoi que ce soit, mais au niveau de la logique sportive, c'était Burns. Ben, Burns est plus là. Il est plus là parce que Bilal est clairement au-dessus au niveau du MMA. Il est fort. Il est fort et ça va être dur pour les autres. Bon, après, je sais qu'il y a Shafkat qui est un peu ben, loin derrière dans le classement, mais qui est proche peut-être au niveau du niveau. Mais Bilal mérite son title shot là, faut pas parler d'autre chose quoi, c'est juste ça. Et d'ailleurs, si le UFC l'a mis en 5 rounds, je pense que c'est parce que c'était un title shot éliminator. Je reste contre hein, ces idées de fight de 5 rounds juste par parcimonie comme ça, d'en mettre un de temps en temps un peu comme on le souhaite. C'est non quoi, un 5 rounds c'est un championnat du monde ou alors un main event d'un fight night on va dire, mais sinon. Non, non, je suis pas trop pour, mais encore une fois, ça a montré que Bilal était très, très, très bon, et puis bravo à lui, parce que ça devient un très féroce combattant. Et nous arrivons donc au main event, Aljamain Sterling, Aljo face à King of Cringe, Triple C, Henry Cejudo. Et bien évidemment, un combat qui ne se refuse pas quand même, parce que Cejudo est quand même très 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 fort, c'est une brute tactique, un très bon coach, un bon combattant, un gars qui a gagné beaucoup de combats épiques, qui a gagné contre des stars, qui a remporté des ceintures, Qui est absolument relou quand il parle trop, mais qui est quand même un gars nécessaire, mine de rien, je pense, au paysage du UFC. Et Aljo, qui, lui, est le champion détesté, j'ai envie de dire, mais qui est le champion légitime des bantamweight, la catégorie la plus compétitive du UFC. Beau combat. Combat super serré, premier round. Je trouvais Aljo un petit peu nerveux dans ses déplacements, dans ses attaques. Il fonçait un peu trop sur ses rudos. Et je me demandais si Aljo n'était pas un peu sous l'emprise des émotions suite aux quelques échanges pendant la Fight Week. D'ailleurs, je pense qu'il a fallu qu'il y ait ce premier takedown de Cejudo pour que Aljo se reprenne un petit peu en main au niveau de son MMA. Cejudo a réussi à le mettre au sol direct, genre pour 2 minutes, quelque chose comme ça. Mais bon, Sterling sait se relever. Sterling sait se relever. C'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que genre, tu le mets au sol, mais il va se relever. On pense beaucoup à notamment les combats contre Putorian, où il y a une très bonne gestion du dos de la part de Sterling. Il est bon pour mettre ses adversaires au sol, prendre le dos et gérer le combat dans le dos de ses adversaires. Mais quand il se fait mettre au sol, il est très bon pour se relever aussi. Et une fois qu'il s'est relevé, qu'on est revenu au centre de l'octagone et qu'il a commencé à gérer son striking, bah là on voyait que c'était vraiment bon pour Sterling au milieu de l'octogone. Même dans le deuxième. Dans le deuxième, on voyait que Cejudo était un petit peu short sur les échanges. Forcément, il est beaucoup plus petit que Sterling. Donc, on l'a vu un petit peu mouliner 2-3 fois, essayer de passer des high kicks qui passaient genre bah, quand même loin de la tête de Sterling. Mais par contre, et c'est arrivé dans le deuxième aussi, quand Aljo a pris trop son temps au milieu, est devenu un petit peu feignant au niveau des déplacements et au niveau des sorties, eh ben, Cejudo devient dangereux dans la poche. Hein. On sait qu'il a du feu dans les mains aussi, le gaillard, et qu'il s'est envoyé des bons low kicks. Donc, Aljo s'est mis dans des situations de danger qui n'étaient pas nécessaires. Et je pense, mais ça, c'est parce qu'on lui demande la perfection aussi, Aljo. Pas digne d'un champion. Et là, je parle des détails et je vais paraître super dur, mais il ne faut pas être feignant comme ça. Vraiment, c'est impossible sur des échanges qui peuvent être aussi dangereux avec Cejudo. Tu peux pas te permettre de chiller un petit peu au milieu de l'octogone et de rester dans la poche de ton adversaire. Il faut vraiment sortir. D'ailleurs, Ray Longo va lui dire entre le round 2 et 3, il fait genre « Arrête d'être feignant, gars. Genre, t'es super bon quand t'es au centre de l'octogone et que tu gagnes les échanges de striking. Reste comme ça, sors plus vite. » Et Aljo a plus ou moins géré ça mieux par la suite. Mais je voulais le noter parce que deuxième round, c'est trop tôt pour être feignant comme ça. Maintenant, évidemment, l'élément très important de ce combat, c'est la lutte. Et il y a eu quand même pas mal de tentatives de takedown qui vont paraître désespérées de la part de Aljo dans le troisième, mais il a raison, il faut quand même essayer d'aller lutter. Après, contre Cejudo, c'est très compliqué. Hein. On l'a vu. Moi, je pense que quand je vous dis il faut le faire, c'est parce qu'il faut varier son MMA. Surtout dans un combat qui risque de durer 5 rounds, c'est très important de varier ton MMA et pas de seulement genre essayer de faire du striking au milieu de la cage, ça marchera pas contre Cejudo, il va forcément pousser à un moment donné. Il va y avoir des échanges de lutte et il faut que tu sois prêt. Donc tu peux les anticiper en essayant de shooter, c'est possible, mais quand Cejudo va chercher un underhook sur une défense de takedown, c'est quasiment impossible de le mettre au sol. Sterling, genre, essaie de se mettre vraiment bas pour aller mettre son adversaire au sol. Hein, il pose des genoux, etc. Et il arrive même, dans le troisième, à faire poser un genou de Cejudo quand on est contre la grille. Mais malgré tout, il essaie de passer un crochet, etc. Cejudo se relève. C'est pas un problème, un genou au sol, tu te relèves direct derrière. C'est très compliqué face à Triple C en lutte. Et Triple C qui passera même un beau takedown, genre suite à un double underhook au milieu de la cage. Il le passera dans les 10 dernières secondes, va travailler un petit peu au-dessus, mais c'est plus pour les points. Quoi. On est très dans le troisième, on commence à rentrer dans les schémas tactiques, score et des points, etc. Parce qu'on sait que ça va être super serré entre les deux. C'est chaud. Bon, quand on rentre dans le quatrième, ce qui m'a gêné côté Aljo, c'est que ce soit Cejudo qui dicte le pace en striking. Et c'est là que je pense que le champion aurait pu perdre sa ceinture. C'est sur cette abnégation de la part de Cejudo et cette envie de la part de Cejudo. Et c'est ça qui fait que le gars est un grand champ aussi et un double champ. C'est ce côté, tu peux switcher je perds à je veux gagner. Et je vais tout faire pour gagner et je vais battre Aljo à son propre jeu qui est... Aljo en tout cas aurait dû avoir ce jeu. Comme l'a demandé Serra, c'est quand t'es au milieu, rentre et sors vite, tu le build up sur les pieds. Continue à faire ça, mais c'est Cejudo qui a décidé d'avancer dans le quatrième. Et Aljo, avec toutes les peines du monde, a sorti du range de Cejudo. Ça reste serré encore une fois comme round, mais je trouve que Cejudo était plus entreprenant au niveau du striking. Et pour ça, merci, parce que c'est ça qui fait que le combat est vraiment passionnant. Le fait de vouloir avancer, d'aller chercher cette putain de ceinture et d'être genre vraiment agressif dans le striking. D'ailleurs, à la fin du quatrième, le corner de Cejudo leur dit c'est soit 2-2, soit 3-1, mais ils ont commencé par 2-2 comme pronostic. Et je trouve que c'est une très bonne façon d'approcher le combat dans le cinquième parce que ben, il fallait aller chercher peut-être un finish. Après, Sterling a beaucoup shooté sur des takedowns aussi, mais ça peut paraître désespéré, et ça l'était un peu peut-être à certains moments. Mais, comme je vous dis, en 4, je pense, pour Cejudo. Après, une chose sur les takedowns de Sterling, c'est qu'à chaque fois que Sterling se retrouve en tortue, Cejudo a rien su faire. Il met énormément de pression, il essaie de passer le body lock, etc. À chaque fois, Sterling va se relever. Certes, il chill, etc. un peu au bout d'un moment, mais la façon dont il bloque ses entrées, bien les coudes bien protégés, les coudes bien, bien proches de ses genoux, vraiment, vraiment tortue, bien coquillé, et défense des mains sur les attaques de Cejudo, c'est personne n'arrive à faire quelque chose de la tortue de Sterling. Personne. Et ça, c'est fort. C'est fort parce que c'est discipliné, savoir se défendre et puis casser le game plan de ton adversaire si jamais, justement, il veut te beat up quand tu es au sol. Il a géré de ne pas se retrouver sur son dos. Ça, c'est important aussi et je voulais le noter. Malgré tout, quatrième pour Cejudo et comme je vous le dis, son corner le met à 2-2 en fin de round 4. Et cinquième round, super serré encore une fois, hein, même Cejudo passera un takedown qui aurait pu lui donner, je pense, la ceinture et la victoire, mais encore une fois, c'était super serré. Il n'y a pas de scandale sur la décision qui était une décision partagée qui est partie pour Aljo. Aljo a été plus discipliné dans le cinquième au niveau de la distance. Je pense qu'il n'a pas voulu se faire déboîter par Cejudo qui avait sûrement encore du knockout power pour finir le combat. 4 takedowns ont été passés par Sterling et 3 ont été passés par Cejudo. Plus de significant strike côté Sterling. Hein. Dans le clinch, il a été plus agressif. Par contre, il n'aurait pas dû forcément aller clincher dans le cinquième parce que Cejudo n'avait pas le choix. Comme son corner lui avait dit, il voulait aller chercher cette ceinture et puis il devait taper des genoux, etc. dans le clinch. Donc Sterling n'a pas forcément eu la meilleure approche dans le début du cinquième, mais... côté garder la distance, envoyer des single shots et repousser Cejudo, ça, il a été bon là-dessus. Bon, il s'est pris un takedown dans les 10 dernières secondes, dernière minute, quelque chose comme ça. Ça aurait pu compter côté Cejudo, mais les arbitres en ont décidé autrement. Victoire à la décision partagée pour Sterling. Ça va faire couler beaucoup d'encre. On va reparler de la décision et de qui a gagné quel round pendant des années. Mais moi, ça ne m'intéresse plus avec Sterling, cette conversation. Parce que Sterling est bon, tout simplement. Il sait gérer des combats. Il sait le faire. Si vous voulez aller le battre, cassez-lui la tête, arrachez-lui la tête et finissez-en. Et Peter Yan n'a pas été capable. Cejudo n'a pas été capable. C'est chaud. C'est vraiment chaud d'aller chercher Sterling. Parce que comme je vous le dis, même quand vous l'avez en tortue, impossible de rien faire. Quoi. Le gars, il sait bien se protéger, il va se relever. Et si Sterling devient plus discipliné, après, ce sera peut-être jamais le cas. Hein. Mais si Sterling devient plus discipliné, il est clairement imbattable. Je parle dans le côté tactique. Hein. Quelqu'un serait capable de lui arracher la tête et tout. Et vous pouvez me pourrir sur mes takes, c'est correct. Hein. On est là pour discuter. Donc on a le droit d'être pas d'accord. C'est pas du tout un problème. Mais si, je vous dis, si Sterling vraiment devient plus discipliné au niveau du striking et du range, je pense que ça peut être très, très, très compliqué pour les 1, 2, 3 prochaines années peut-être, même si les Bantamweight est une catégorie complètement folle. Et en plus, Sterling se bat régulièrement en tant que champion. Le gars, il se bat 3 fois par an quasiment, quoi, en tant que champion. peut pas lui demander plus. Genre, rien que pour ça, il mérite le respect des gens quand même, un minimum, parce que le gars accepte les combats. Il va les chercher. Bon, maintenant, on fait monter O'Malley dans l'octogone. C'était vraiment deux chiens qui se barquaient dessus à la fin du trash talk de bas étage. C'était à chier. C'était à chier de ramener O'Malley avec sa veste de flash et puis torse nu en dessous, sa coiffure d'Yvia Turner. Et puis Merab et Ayla Quinta qui charriaient O'Malley qui s'énervait derrière. C'était pathétique, mais regardez, des fois c'est pathétique le UFC, et puis on va essayer de se concentrer de ce qu'il y a dans la cage, mais je parle uniquement des combats, bien sûr. C'est dur des fois, mais il faut essayer. Victoire de Sterling, encore une fois, victoire de Sterling à la fin de la journée, qui va battre Aljo. Hein, qui va battre Aljo, je sais pas. TJ, non. Putarian, non. Sandhagen, non. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de possibilités à venir chez les Bantamweight, mais enfin voilà, il a 33 ans. Pourquoi pas ne pas partir à la retraite trop tard quoi pour Aljo, parce que le gars gagne à chaque fois et puis c'est un grand. Est-ce qu'il va devoir monter chez les Feather, hein, ça on en avait parlé aussi. Je pose ça là comme ça vite fait, mais bravo Aljo, hein, il a battu Cerrudo. Encore une fois, la décision aurait peut-être pu aller dans l'autre sens, mais il n'y a rien de scandaleux non plus à la Dulonnet, la décision partagée, quoi. Ça, non. Non, non, non. Et bravo Aljo. Et merci à vous, hein, pour un week-end qui a été placé sous le signe de la bagarre avec une énorme carte One Fight Night 10. Je vous rappelle que le podcast est sorti juste hier. Donc vous pouvez aller l'écouter, épisode 88, dispo sur toutes vos plateformes audio préférées. Puis n'hésitez pas à vous abonner hein, aussi sur les plateformes, que ce soit Spotify, Apple, etc. Et puis laissez un petit avis si ça vous plaît, bien sûr, hein, je veux forcer personne. Si ça vous plaît et que ça vous tente, laissez un petit avis. Merci à vous, abonnez-vous sur Twitter, @guillotine514. Abonnez-vous sur Instagram, @guillotine_podcast. Et abonnez-vous sur YouTube. Je sais, je suis pas très actif ces dernières semaines, mais j'ai quelques petits plans. Merci à vous pour cette écoute. On se reparle très très bientôt. Ciao. At the end of the day, it is what it is.